Jean-Noël Pintard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de SOS Amitié à Montpellier.
Oui.
Et nous allons évoquer ensemble la notion de l'écoute. Qu'est-ce qu'écouter ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'être à l'écoute des personnes ? Goethe disait « parler est un besoin, écouter est un art ». Pour vous, Jean-Noël Pintard, qu'est-ce que c'est que écouter ?
Alors, cette citation de Goethe nous va extrêmement bien. Parce que les appelants nous appellent et nous disent tous « est-ce que je peux vous parler ?» Et ils appellent parce qu'ils ont besoin de parler, et puis parce qu'ils ne savent pas à qui parler. Et comme notre écoute est anonyme, c'est facile, ils peuvent parler, dire tout ce dont ils ont besoin de, s'exprimer, sur quoi ils ont besoin de s'exprimer. Et quand vous dites, quand Goethe dit, avec votre parole, que l'écoute est un art, on l'expérimente tout le temps, parce que l'écoute n'est pas du tout naturelle. Les personnes qui nous appellent ne trouvent pas d'oreille pour les écouter. Vous-même, d'ailleurs, quand vous voulez parler autour de vous, vous sentez bien que les gens, ils vous écoutent, mais ils veulent vous parler avant même de vous écouter. C'est-à-dire qu'au moment où vous leur parlez, tout de suite, ils ouvrent la bouche pour vous dire « mais oui, mais moi », etc. Ou vous dire « ah ben oui, mais si tu as des problèmes, je pourrais te dire que », etc. Et vraiment, il y a besoin d'une... J'allais dire d'une formation, mais aussi d'une concentration, d'un retour sur soi, d'un contrôle de sa propre pensée quand on est écoutant, pour être complètement à la disposition de la personne et en empathie avec la personne. Et puis, pour quand je dis contrôler sa pensée, c'est-à-dire s'empêcher de penser à ce qu'on va dire à la personne que l'on écoute au lieu de l'écouter. Et ça, je crois que c'est véritablement un art. Et qu'à SOS Amitié, on a par exemple des consignes qui sont fortes, du type « ne donnez pas de conseils, surtout ne jugez pas, accueillez toutes les paroles telles qu'elles viennent, telles que la personne les exprime. » Eh bien, pas juger, on peut se dire « on y arrivera à pas juger, on se retient un peu, pas de jugement, même si quelquefois il y a des gens qui peuvent nous énerver, nous irriter. » Mais pas donner de conseils, je peux vous garantir que c'est extrêmement difficile. Dès que quelqu'un vous pose un petit problème, une difficulté, tout de suite, il y a votre cerveau qui commence à tourner, on parcourt toute sa propre expérience personnelle, et puis on se dit, mais moi, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Qu'est-ce que j'ai fait dans la vie qui pourrait lui rendre service, etc. C'est complètement à côté de la plaque.
C'est avant tout laisser l'autre parler et écouter, donc se taire.
Donc souvent, enfin le plus souvent, se taire. Effectivement. Et faire l'expérience, voilà encore une chose qui est difficile, faire l'expérience du silence plein. Laisser se taire pour laisser la personne qui, quand elle se tait, on entend qu'elle est en train de réfléchir, de ruminer sa question, de voir comment elle pourra aborder ses propres problèmes. Et l'écoute de SOS Amitié, c'est donner la possibilité à la personne de reprendre une autonomie sur sa propre parole et de se reprendre en main. Mais avec ce qu'elle est, et donner un conseil, mais ça va tomber dans le vide. Parce que la personne, elle n'est pas à votre place. Elle n'a pas sur votre histoire. Donc elle n'est pas capable de mettre en œuvre le conseil que vous allez lui donner. Par contre, si elle se dit, ah, je pourrais peut-être, et que, ah, ça, elle pourrait peut-être, mais elle n'ose pas encore. Et l'aider à se dire, ben, je vais peut-être pouvoir faire ça, parce que ça, c'est une idée que j'ai, que je pourrais mettre en œuvre, c'est extraordinaire.
Alors, SOS Amitié, c'est aussi une histoire. Est-ce que c'est une histoire d'amitié qui commence dans ces années 50, 60, je ne sais plus où d'ailleurs. Qu'est-ce qui déclenche la naissance de SOS Amitié? Vous en souvenez-vous, Jean-Noël?
Un tout petit peu. Alors d'abord, SOS Amitié est né en 1960 en France, mais a été devancé en Angleterre par un pasteur anglais. Alors là, je vais peut-être vous amuser, mais l'anecdote, c'était une jeune fille qui pensait qu'elle allait mourir, qui voulait se suicider parce que c'était catastrophique ce qui lui arrivait. Elle avait ses règles. Et du coup, elle en a parlé à un pasteur, elle l'a appelé, et puis voilà, il s'est dit, mais peut-être que au téléphone, je pourrais...
Elle a eu peur que ce soit quelque chose de grave.
Voilà, exactement. Alors, et donc, ce sont les Samaritains, je ne prononce pas en anglais parce que c'est trop difficile pour moi, qui ont créé ça en Angleterre, et puis après, c'est venu en France avec... deux personnes qui se sont retrouvées, en particulier le pasteur Casalis et son épouse, ne pas l'oublier.
Georges Casalis ? Pas Georges.
Non, Jean Casalis, je crois.
Jean Casalis, d'accord.
Je dis ça de mémoire. Ces deux personnes ont décidé de créer donc l'écoute au téléphone. Et bon, puis ça s'est développé relativement vite en France.
Oui, aujourd'hui, je lisais que ce sont 1600 bénévoles écoutants, 200 bénévoles non écoutants, parce que SOS Amitié, c'est aussi une vaste organisation administrative. Et je lisais aussi 50 postes sur le territoire. Et enfin, 70 000 appels reçus et répondus au téléphone et par Internet.
Et vous vous trompez. Ce n'est pas 70 000 appels, c'est 700 000 appels.
700 000, j'ai oublié un zéro.
Oh,
je suis passée.
Et à Montpellier, c'est à peu près 14 000 appels que l'on a par an. Et à Montpellier, là, vous avez cité des chiffres France entière, il y a 40 écoutants. Et on passe à peu près, en 2015, on a passé 4300 heures à l'écoute de personnes angoissées, seules, en difficulté.
Est-ce que vous avez suffisamment d'écoutants? Vous parlez de 40, c'est suffisant pour toute cette région? Enfin, c'est à Montpellier, quel territoire est-ce que ça couvre, le poste de Montpellier?
Alors, le poste de Montpellier couvre tout le territoire, parce que quand le téléphone, on faisait le numéro de téléphone de Montpellier, enfin, notre numéro qui est à Montpellier, on tombait sur le poste de Montpellier. Maintenant, on tombe sur le poste de Montpellier, mais si le poste est occupé, il est renvoyé sur d'autres postes à l'extérieur. Et il y a actuellement 54 postes en France, et nous sommes effectivement 40 écoutants. Et 40 écoutants, d'une part, c'est pas assez, parce que on ne peut prendre qu'un appel sur quatre. C'est nos systèmes téléphoniques, informatiques, on mesurait ça au niveau de la France entière. Et puis, par ailleurs, on a besoin de recruter des nouveaux écoutants en permanence, parce que 40 personnes, si chaque personne restait 5 ans, il faut qu'on remplace 8 personnes par an. C'est assez énorme. Donc il faut absolument qu'on recrute en permanence, et nous assurons en général 2 formations par an pour les nouveaux candidats.
Est-ce qu'écouter, ça motive les bénévoles? Est-ce que quand vous leur dites, voilà, vous venez à SOS Amitié, vous allez écouter au téléphone, est-ce que ça les motive?
Alors, il faut dire qu'il y a des écoutants qui sont là depuis presque 20 ans. Parce que
on y reste alors? Une fois qu'on y est, on y reste?
Non, pas forcément. On part relativement vite, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, soit on y reste plus longtemps parce qu'il y a une motivation qui est très forte. Alors, on y vient parce qu'on veut aider les autres, ça c'est un facteur important. On a du temps à consacrer et on veut rendre service. Bon. Et on y reste parce qu'on rend service. Et parce que, en plus, non seulement on rend service, mais moi je dis, on joue gagnant-gagnant dans l'opération. La motivation est très forte parce que l'écoute au téléphone, anonyme, comme on la pratique, elle va très loin en très peu de temps. On rentre dans l'intimité des personnes très très vite. Et du coup, on rentre dans leur humanité très vite. Et parfois, leur humanité fracassée. Et cette humanité fracassée, on sait qu'elle est autour de nous. Mais on ne la rencontre pas comme ça. Alors qu'à SOS Amitié, on la rencontre très vite. Mais on rencontre des gens qui sont fracassés, mais qui parfois ont une énergie colossale. Il suffit de pas grand-chose pour pouvoir redonner espoir, redonner de la vitalité.
Comment est-ce que vous expliquez que ça se passe très vite, cette intimité au téléphone? Est-ce que c'est l'urgence de la personne qui appelle, ou est-ce que c'est cette capacité à l'écoutant d'être disponible tout de suite là, au moment où il décroche?
Alors, je dirais les deux, mon général. L'urgence, oui, j'ai besoin de parler. Et je sais que j'ai une oreille qui va m'écouter. Donc, après quelques petits échanges, mais souvent ça va très vite, les gens ils vont directement à leur essentiel. Et puis, vous disiez, il y a une oreille qui écoute et qui sait écouter. Et les gens le sentent qu'on s'est écouté. Et quand les gens ont parfois des difficultés très profondes à dire, parce qu'ils n'ont pas l'habitude non plus de dire, certains. Alors il y a certains qui rappellent très fréquemment, mais il y en a qui n'ont pas du tout l'habitude. Et ils nous testent. On parle un peu parfois de tout de rien au début, très vite. Et puis quand ils sentent que l'écoute y est, eh bien pouf, on a quelque chose qui tombe et qui peut parfois être dramatique pour eux, des choses qui ne sont pas digérées. On se retrouve parfois avec des personnes, alors maintenant c'est un peu moins fréquent, mais des personnes qui n'ont jamais pu parler de leur inceste, par exemple, qui ont 50, 60, 70 ans, et puis qui en parlent, parce qu'elles sentent qu'elles peuvent en parler. Et puis quand même, l'anonymat aide énormément. Parce que les gens nous disent, écoutez, il y a des choses, je ne peux pas en parler à mes proches, ils ne sont pas attentifs, ou ils me rembarrent. ou tout simplement je leur en ai déjà trop parlé, ils n'en peuvent plus. Nous, on a une oreille qui est toujours, toujours à l'écoute et on est capable de réentendre mille fois la même chose. Mmh. Alors, on n'entend pas mille fois la même chose.
Est-ce qu'il y a des personnes qui prennent l'habitude de vous appeler ?
Oui, il y a des personnes qui prennent l'habitude de nous appeler. Et en particulier, vous le savez, mais on le sait intellectuellement, nous on le sent, c'est-à-dire à chaque fois que nous sommes à l'écoute, la solitude. Et la solitude, je ne sais pas si des auditeurs en ont certainement l'expérience douloureuse, mais cette solitude, elle est parfois extrêmement lourde à vivre. Et donc, moi j'ai l'habitude de dire, enfin, et puis je crois que c'est vraiment une réalité, on ne peut pas être un humain si on n'est pas en relation sociale. On est humain parce qu'on est avec d'autres humains. Et bien, quand on est tout seul, on n'est plus humain. Donc on se délite. Donc ça, ils prennent l'habitude d'appeler, mais simplement parce que, comme on dit bonjour à sa boulangère quand on va chercher le pain ou à son boulanger, on a besoin de dire bonjour à quelques personnes. Donc on appelle, et on dit bonjour, puis on raconte toujours les mêmes choses parce qu'on n'a pas grand-chose forcément à dire. Mais le peu qu'on a à dire, ça permet de rester humain. Et parfois, il y a une petite lumière qui s'allume.
Dans le livre dirigé par Pierre Reboul, « Sortir du silence » que nous évoquerons tout à l'heure, « L'écoute à SOS Amitié », la préface d'André Comte-Sponville insiste sur la différence entre la solitude et l'isolement. Et je trouve que cette nuance-là entre ces deux termes est très précieuse. Il me semble que vous évoquez surtout l'isolement. On peut aimer la solitude, mais l'isolement, personne ne l'aime.
Les moines sont seuls et ils cultivent la solitude pour s'épanouir.
Mais ils sont loin d'être isolés.
Ils sont loin d'être isolés. Et au contraire, ils sont en relation quand même. Alors que nous, on est face à des personnes qui sont profondément isolées. Vous vous rendez compte que parfois, il y a des gens qui ne voient personne de toute la semaine. Alors, il y a quelques personnes qui voient l'infirmière qui passe le matin pour la piqûre. Ça dure 2 minutes parce qu'elles sont pressées, forcément, elles ont du travail. Mais autrement, elles ne voient personne, personne. Des personnes qui vont faire les courses, mais qui ne discutent pas du tout, même en allant faire leurs courses. Et cet isolement, ça démolit complètement.
Je vous invite à une pause musicale avant de continuer avec Caroline Crowley, Late Night.
When I woke up today and you weren't there to play, then I wanted to be with you. When you showed me your eyes, whispered love, disguise, then I wanted to stay with you. Inside me I feel alone and unreal, and the way you kiss will always be a very special thing to me. When I lay still at night, seeing stars high and light, then I wanted to be with you. When the rooftop shone dark, all alone saw a spark, spark of love just to stay with you. Inside me I feel alone and unreal, and the way kiss will always be a very special thing to me. If I mention your name, turn around on a chain, then the sky opens out for you. When we grew very tall, when I saw you so small, then I wanted to stay with you. Inside me I feel alone and unreal, and the way you kiss will always be a very special thing to me. Oh,
Sur la chanson de Caroline Crowley, nous nous retrouvons, Jean-Noël Pintard, pour échanger, parler et vous écouter, pour une fois.
Pour une fois, merci.
De la structure locale Montpellier-Rennes de SOS Amitié. Alors, Caroline Crowley, dans cette chanson, évoque la solitude, mais évoque aussi, dans la nuit, la notion de « je me sens seule et irréelle ». J'ai trouvé cette définition de ce qu'on appelait tout à l'heure la solitude ou l'isolement, l'irréalité de notre ancrage dans le monde. Je trouve que c'était assez bien vu. Qu'en pensez-vous, Jean-Noël Pintard ?
Alors, deux choses déjà dans ce que vous dites. La première, c'est je voudrais rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, que SOS Amitié écoute 24 heures sur 24, y compris la nuit. Et 365 jours par an, y compris le jour de Noël, le jour de l'an. Donc ça c'est important, donc on écoute la nuit. Et l'irréalité des personnes, ou du sentiment d'irréel des personnes qui sont en face de nous, est assez profond. Et tout notre travail, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est de permettre à la personne de retrouver sa propre réalité, ses propres capacités, et ses propres capacités à maîtriser son histoire, sa réalité quotidienne. Ce que les gens ne savent plus faire, en particulier quand ils sont perdus dans l'angoisse, dans la dépression. Et quelque part, l'écoute, vous savez, on ne sait pas écouter dans nos sociétés, mais quand on découvre le fonctionnement de l'écoute, on est parfois épaté. Moi, je suis effaré de voir que en une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure parfois, le simple fait d'être complètement avec la personne, c'est d'être la personne se sent profondément reconnue, donc enfin réelle, alors que d'habitude elle n'existe pas, elle est isolée, n'existe pas, ou même elle peut être isolée avec les gens qui sont autour d'elle, sa famille qui la reconnaît pas, et nous, on est là, on lui renvoie sa propre image, mais avec énormément de respect, et du coup, on est des personnes qui reconnaissent une autre personne d'égal à égal. On est une personne face à une autre personne, les appelants sont une personne face enfin à une vraie personne qui le reconnaît comme une personne. Et ça, c'est extraordinaire. Et puis, je voudrais dire aussi, au niveau de l'écoutant, moi, je suis impressionné parfois combien il y a un petit côté magique. Simplement, cet acte d'écoute, comme on le pratique au sein de la SOS Amitié, fait que les gens, ils arrivent, ils pleurent, ils sont au fond du trou, et au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, on arrive à rire ensemble. Et la personne, moi, j'ai entendu des personnes qui me disaient, mais jamais j'imaginais que j'aurais pu rire aujourd'hui, tellement j'étais dans une situation lourde, pesante. Eh bien, on rit ensemble. Et on rit ensemble. Quand on rit ensemble, c'est qu'on s'est retrouvé quelque part. On réexiste. On a le plaisir d'être avec soi parce qu'on a le plaisir d'être avec quelqu'un d'autre qui nous reconnaît.
Ce que vous dites ressemble à la posture du psychanalyste.
Alors, qu'on soit clair, on n'est pas du tout dans cette posture-là. On n'est pas psychanalyste, on n'est pas psychologue, on est un humain face à un autre humain. Et on n'a pas d'ailleurs de formation psychologique, on a une formation à l'écoute, et même parfois, on a des psychologues ou psychiatres qui sont devenus écoutants avec nous, ils sont conduits à changer leur manière d'écouter, parce qu'on écoute gratuitement, on écoute comme une personne. Alors, on est formé à cette écoute.
Gratuitement, ça veut dire sans... Gratuitement, qu'est-ce que vous entendez par gratuitement ?
On n'a pas de projet sur la personne. Et notre écoute, elle est une écoute de l'instant. On n'a pas de continuité dans l'écoute. Hein. C'est SOS Amitié qui écoute, c'est pas Jean-Noël Pintard qui écoute ou un autre écoutant qui écoute. Et donc, on est porteur d'humain face à un autre humain, mais dans l'instant où on se parle. On ne va pas suivre une thérapie de la personne pendant des mois, des années. Pas du tout. On est là. Notre objectif, c'est pour les personnes qui sont angoissées, qu'à la fin de l'écoute, elles soient un peu moins désangoissées. Un peu plus désangoissées.
Tous les ans, il y a une journée nationale de l'écoute. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée ?
Alors, ce qu'on attend, c'est que l'écoute dans notre société soit davantage reconnue. Que l'importance de l'écoute pour le vivre ensemble, c'est votre émission, soit davantage reconnu. Et on en touche l'efficacité, la réalité, mais à chaque fois qu'on est à l'écoute. Et donc on aimerait faire partager ce sens de l'écoute d'un point de vue national, Journée nationale de l'écoute, et on aimerait aussi qu'il y ait davantage de gens qui nous rejoignent pour faire ce travail, j'allais dire, peut-être cette profession, c'est du bénévolat, mais...
Travail, bénévolat, vous l'avez dit, parce qu'il ne s'agit pas seulement de se taire, il y a aussi une façon de se taire. Est-ce que vous formez vos équipes de bénévoles qui viennent écouter ?
Ah ben, la formation, il y a une formation indispensable, non seulement il y a une formation initiale, mais pas seulement une formation initiale, il y a une formation continue. C'est-à-dire qu'en permanence, on est obligé de se retrouver pour pouvoir... retravailler notre manière d'écouter, retester notre manière d'écouter et la retravailler avec d'autres. Au-delà de la formation initiale qui s'étale sur quelques mois, parce qu'il faut du temps pour apprendre à écouter de manière correcte et efficace, au-delà de ça, tous les mois, on est tenu de se rencontrer en petits groupes pour ce qu'on peut appeler une supervision, on appelle ça un partage, parce que pour nous c'est un partage d'expérience. Et pour pouvoir... C'est un temps où on peut se rassurer avec les autres sur notre propre pratique, on peut aussi déverser, être écouté, parce que quand on a écouté, ben parfois c'est difficile, très difficile, on a besoin de partager avec d'autres. Et puis on se forme parce qu'on apprend en permanence. Il n'y a pas deux appelants qui sont identiques. Et donc, on peut avoir une multitude de réactions par rapport aux appelants. Et même si nos principes, nos règles, notre formation nous disent ce qui est bien de faire, on reste complètement nous-mêmes dans l'écoute et on adapte notre écoute à nous-mêmes.
L'écoute, oui, mais aujourd'hui, les jeunes, ils n'appellent pas comme autrefois nous appelions au téléphone, c'est plutôt chat,
sûr.
C'est plutôt les SMS, les textos. Alors que fait SOS Amitié pour cette tranche d'âge qui est certainement aussi fragile que d'autres personnes plus âgées ?
Oui, alors la fragilité, elle est certaine.
Alors le téléphone, pour eux, c'est pas dans les mœurs.
Écoutez, au téléphone, on a entre 3 et 5%, suivant les endroits et les années, de jeunes de moins de 25 ans qui appellent. C'est très faible par rapport à la population de jeunes. Depuis une dizaine d'années, on a mis en place l'écoute par courriel, par écrit donc, et aussi et surtout l'écoute par chat. Et donc par écrit, mais en instantané, en dialogue immédiat. Et là, autant, je vous disais, on a entre 3, 4, 5% de jeunes au téléphone, par Internet, on a 55% de jeunes. Et ce qui est frappant, moi, il y a une statistique qui m'effraie et qui me fait dire qu'il faut absolument développer cette écoute numérique, entre guillemets, Internet. Par téléphone, on a à peu près 2% d'appelants qui nous parlent de suicide. Sur Internet, c'est 20%. Et les jeunes sont très marqués par le suicide. Et donc, il faut absolument qu'on puisse développer cette écoute. Pour le moment, elle est encore relativement faible, puisqu'on a autour de 8000 appels par chat par an. Alors qu'on est à 700 000, je vous le disais, donc c'est loin des besoins. Et aussi par téléphone, on a un appel sur 4 qu'on ne peut pas prendre. Par chat, je crois que c'est un appel sur 12 appels sur 13 qu'on ne peut pas prendre et 3 appels sur 4 qu'on ne peut pas prendre au téléphone. Et donc, il y a un besoin de développer. On a besoin d'écoutants pour ça. Et pour venir écouter, il faut passer par le téléphone parce que c'est comme ça qu'on apprend. Notre métier, entre guillemets, c'est pas un métier, c'est du bénévolat, mais il y a vraiment un côté professionnel dans ce qu'on fait. Et d'ailleurs, je voudrais vraiment dire que les personnes qui viennent comme écoutantes, elles découvrent une formation qui est vraiment extrêmement intéressante. Hein, parce que on ne sait pas faire dans la vie courante. Il faut apprendre à faire et ça nous apprend à le faire aussi dans la vie courante. Le bénéfice que chacun y trouve dans l'écoute pour les autres, c'est aussi, même si on se tait beaucoup à l'écoute, une écoute de soi et une capacité qu'on acquiert pour soi dans notre vie sociale, dans notre vie familiale. Et on joue gagnant-gagnant, complètement. Il y a un journaliste qui m'avait posé la question, qui m'avait dit « Mais qu'est-ce que vous êtes généreux dans ce que vous faites ?» Mais on n'est pas généreux puisqu'on reçoit autant qu'on donne. Donc on partage, c'est ça qui est essentiel. C'est ça qui nous motive aussi.
Merci Jean-Noël Pintard pour cet enthousiasme pour cette association SOS Amitié qui est à l'honneur chez nous, à FM+, sur FM+, plusieurs fois dans l'année. On va se retrouver. Alors, précisons aussi que Sortir du silence, l'écoute à SOS Amitié, un livre dirigé par Pierre Boulle, sera présenté à la librairie Le Grain des mots à Montpellier.
13 boulevard du Jeu de Paume à Montpellier, le 3 novembre, jeudi 3 novembre, journée nationale de l'écoute, à 19h30. Nous nous retrouvons pour tous ceux qui sont intéressés par notre démarche. Donc ce livre présente notre démarche, mais il va beaucoup plus loin parce qu'il présente aussi notre manière d'écouter qui peut servir à tout le monde et en particulier à tous ceux dont le métier est dans l'écoute, mais qui parfois vont peut-être pas au bout de leur capacité, de leur propre possibilité de bien écouter et d'être efficaces aussi dans leur métier. C'est pas forcément la même manière d'écouter, mais ils peuvent trouver énormément de choses et de pistes intéressantes pour eux. Comme pour tous ceux qui veulent améliorer leur capacité à écouter leurs voisins, leur famille et autres.
Merci Jean-Noël Pintard, à bientôt.
À bientôt, avec plaisir.